FM.
Le cinéma en plein air de la Villette. Le rendez-vous phare de l'été parisien vous plonge cette année dans les destinées de personnages incontournables, grandioses, décadents ou insolents. De Marie-Antoinette de Sofia Coppola à Invictus de Clint Eastwood ou encore Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Vivez l'été à la Villette avec le 7e art jusqu'au 22 août. Un événement gratuit en partenariat avec France Inter.
Midi 4 sur France Inter. Rebonjour Camille Cronier.
Bonjour François. Rebonjour, oui.
La PMA pour toutes au menu du débat de midi.
Oui, et vous, on vous retrouve à 14h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est le débat de midi. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour discuter, décrypter, questionner des sujets qui marquent notre époque. Et en voilà un qui agite la société depuis des années, la PMA pour toutes, c'est-à-dire la possibilité pour les femmes célibataires et les couples de femmes d'avoir recours elles aussi à l'assistance médicale à la procréation, réservée jusque-là aux couples hétéros avec problèmes de fertilité ou maladies graves transmissibles. La mesure inscrite dans la loi de bioéthique est aujourd'hui définitivement adoptée par le Parlement, 2 ans après son arrivée dans les hémicycles. Il était temps, diront beaucoup, mais sans une certaine amertume, vu la bataille que ça a été, vu aussi les points d'interrogation qu'il reste et les insuffisances malgré l'avancée que représente cette loi. En tout cas, un rattrapage quand on sait que 13 autres pays en Europe autorisaient déjà la PMA pour toutes. Quelles sont justement les inquiétudes? Quels sont les manques? Les bons points aussi? Et quelle sera la prochaine étape? Que dit tout cela de notre société et de notre système en France? PMA pour toutes, pourquoi un accouchement si douloureux? On est ensemble jusqu'à 13h.
Camille Cronier, le débat de midi sur France Inter.
Pour 326 contre 115, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. L'examen de ce projet de loi a donné lieu à 62 réunions pour un total de 160 heures en commission spéciale et 44 séances pour plus de 149 heures de discussion dans l'hémicycle. Près de 12 700 amendements ont été déposés en commission et en séance publique, dont 714 ont été adoptés. Je suis convaincu que notre Assemblée s'est honorée en prenant ainsi le temps du débat et de la réflexion sur des sujets fondamentaux pour l'avenir de notre société, dans le respect des convictions de chacun. La séance est suspendue.
Et c'était le 29 juin dernier, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui annonce donc le vote définitif et se félicite, vous l'avez entendu, de la qualité et de la longueur des débats. On va y revenir avec mes 4 invités. Bonjour Marine Poulain.
Bonjour.
Vous êtes docteur, biologiste en médecine de la reproduction à l'hôpital Foch de Suresnes. Vous travaillez entre autres avec le professeur Jean-Marc Ayoubi et le professeur René Friedman derrière la naissance de ce qu'on a appelé le premier bébé éprouvette, c'est-à-dire la petite Amandine, qui est plus trop petite puisque c'était en 1982. Bonjour Caroline Mécari.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous avez écrit PMA et GPA aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Bonjour à vous Jenna Famsel.
Bonjour.
Vous êtes militante transgenre au sein du collectif Espace Santé Trans et co-animatrice de un podcast trans, donc on peut trouver n'importe où en ligne. Et enfin, bonjour Frédéric Worms.
Bonjour.
Vous êtes membre du comité national consultatif d'éthique qui avait rendu un avis favorable à la PMA pour toutes en 2017 d'abord, puis à nouveau en 2018, donc 5 ans après la promesse de campagne du président François Hollande et 3 ans avant l'adoption définitive le 29 juin dernier. Pourquoi tant d'années pour arriver à cela, Frédéric Worms?
Écoutez, pour moi, la principale raison, avec des bons et des mauvais côtés, et peut-être plus de mauvais côtés que de bons en l'occurrence, c'est qu'on n'arrive pas à isoler les sujets de bioéthique, à les traiter un par un avec leurs repères précis qui traitent des repères éthiques, du respect des différents acteurs, des différents principes éthiques, dans chaque technique biomédicale, sur chaque sujet précis. Et l'extension de la procréation médicale assistée aux femmes et aux couples de femmes, je pense que ça posait un problème éthique particulier dans la mesure où elle était auparavant réservée aux couples hétérosexuels pour raisons dites pathologiques. Et là, c'est une ouverture pour d'autres raisons. Ça devait être examiné. En effet, le Comité national d'éthique sur ce sujet-là montre qu'il n'y a pas de problèmes éthiques majeurs envers aucun des acteurs, puisque les techniques sont déjà autorisées. Il s'agit plus d'une confirmation d'une technique déjà existante sur des acteurs qui restent les mêmes. Et je crois vraiment que le blocage tient au fait qu'on situe cette question locale. Évidemment, je comprends pourquoi. Dans des représentations globales sur l'être humain, sur la famille, sur la société.
Qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui.
C'est-à-dire qui sont d'abord diverses dans une démocratie et qui font tension, qui sont d'actualité, mais sur un autre plan. Et je pense qu'il faut distinguer deux niveaux de l'éthique, les sujets vraiment précis et les conceptions globales. Et ces conceptions globales, il fallait le temps pour les déplier. Et donc, je comprends bien que Richard Ferrand dise, tant mieux, on a pris du temps, il y a une maturation, c'est très important. Parce que ce débat qui fait conflit entre ces éthiques, le fait peut-être moins maintenant, mais d'un autre côté, ces blocages, en effet, en raison des conceptions globales, empêchent d'avancer sujet par sujet.
Caroline Mécari, cette demande d'étendre la PMA à toutes les femmes, elle date de bien avant même.
En fait, si on veut inscrire cette démarche chronologiquement dans l'histoire, les premières demandes remontent à 1990. J'allais dire que la première manifestation officielle de la demande de la PMA, c'est ce qu'on a appelé le manifeste pour l'égalité des droits, qui a été publié dans Le Monde le 16 mars 2004. C'est-à-dire que ce manifeste avait pour objet de dire, si on veut lutter contre les manifestations de l'homophobie, les agressions, les propos injurieux, etc., il faut alors qu'il y ait une égalité des droits pour tous les citoyens, qu'ils soient hétéros ou homo. Et donc, c'était la demande d'accès au mariage civil, à l'adoption et à la PMA. Et donc, ça pose vraiment, c'est le premier acte, j'allais dire, politique de cette revendication. Et ensuite, il faut effectivement le temps de la maturation, j'allais dire, de la société. Enfin, je pense que on l'a vu d'ailleurs sur ces 10 dernières années, comment les études, les sondages ont montré comment les Français sont devenus tout à fait favorables.
Oui, 2019, 67% des Français
largement, favorables. Largement. Pourquoi? Parce que la France s'inscrit aussi, j'allais dire, dans un contexte européen. Vous l'avez rappelé, il y a 13 pays qui, en Europe, permettent déjà la PMA aux couples de femmes. Il y en a 26 qui permettent la PMA pour des femmes célibataires. Donc, ça participe d'un mouvement. Et si, d'un point de vue politique, ça a été long, c'est-à-dire dans le cadre du débat parlementaire, c'est parce que on a toujours une frange très conservatrice qui considère qu'il n'y a en réalité qu'un seul modèle possible de famille, c'est-à-dire une famille hétérosexuelle, alors qu'en réalité, en France, la sociologie de la famille montre qu'on a totalement évolué depuis les années 60.
Gina Famsel, justement, pour vous, est-ce que, donc il a fallu moins de 20 ans, mais plus de 15 ans pour y arriver, si on parle de 2004 dont parlait Caroline Mécari à l'instant, pour vous c'est trop long ou l'essentiel c'est d'y être arrivé?
Je pense que c'est toujours trop long et même 2004, je trouve ça optimiste de prendre ce repère parce que avant la première loi bioéthique, c'était pas interdit pour les couples de lesbiennes. C'est-à-dire qu'il y a des couples de lesbiennes qui ont profité du vide juridique avant 94, si ma mémoire est bonne, pour faire des enfants par PMA en France. Et le législateur, dans son infinie sagesse, a interdit ça explicitement dans la première loi de bioéthique.
Et qu'est-ce qui faisait blocage selon vous? Alors le conservatisme de certains politiques en l'occurrence, parce qu'effectivement la société, en tout cas les citoyens derrière, sont pas complètement opposés. On le voit dans les sondages, on vient de le dire.
Je pense qu'il y a et il y aura toujours une frange conservatrice dans une société quelle qu'elle soit, parce qu'on est très divers. Je pense que ce qui a manqué, c'est un courage politique de ne pas cajoler cette frange conservatrice dont elle espère les voix. Cette frange conservatrice, elle est en partie au pouvoir. Des membres de la Manif pour tous sont encore aujourd'hui ministres. Donc,
vous parlez de
Gérald Darmanin, par exemple.
Oui.
Et de l'Intérieur.
Donc, il y a un certain nombre de réformes de société qui demandent le courage de les mettre en place. Et on voit que très, très vite, la majorité de la population est complètement d'accord. Que ce soit la fin de la peine de mort ou le divorce.
Marine Poulain, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous rappeler ce qu'est tout simplement une PMA, s'il vous plaît? En quoi ça consiste?
Oui, bien sûr. Donc, en quoi ça consiste? C'est aider médicalement donc un couple ou prochainement peut-être une femme seule à procréer, donc à accéder à la parentalité. Donc, pour cela, on va faire des examens diagnostiques. Au couple, il y a toute une prise en charge d'abord diagnostique. C'est vraiment une prise en charge clinico-biologique, hein. C'est pas uniquement des actes techniques. Il y a toute une prise en charge médicale, parfois même psychologique, de ces gens qui veulent accéder à cette parentalité. Et on va ensuite mettre en œuvre une technique d'assistance médicale à la procréation la plus adaptée en fonction du dossier de chaque patient qui vient chez nous, donc soit de l'insémination, soit de la fécondation in vitro. Ça va vraiment dépendre de toute l'exploration en amont qu'on a faite. Et c'est vraiment important de faciliter le parcours patient, parce que c'est un parcours qui est long. Il y a beaucoup de choses à faire. Notamment, nous, par exemple, sur l'hôpital Foch, on a créé ce qu'on appelle le One Day Fertility, où en une journée, on explore tout le couple infertile et on va directement les adresser ensuite sur la technique la plus adéquate.
Et là, vous parlez de ce qui existe actuellement, puisque donc, dans les jours qui viennent, ça va s'ouvrir aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Caroline Micari.
Oui, non, juste pour préciser sur les techniques même, c'est l'insémination artificielle avec donneur qui sera plus anonyme. On pourra avoir accès à l'identité du donneur. C'est aussi la fécondation in vitro et c'est le don d'embryon. C'est les trois techniques qui existent aujourd'hui. Après, le suivi et les investigations sur l'infertilité qui existent pour les couples hétérosexuels qui ne seront d'ailleurs pas soignés par les techniques de PMA ne va pas se poser pour les couples de lesbiennes.
Toujours obligé d'explorer parce que la patiente peut avoir une réserve ovarienne complètement altérée qui fait que de toutes les façons, même si elle a le droit légalement d'accéder à l'AMP, peut-être qu'elle ne sera pas éligible médicalement. Donc on est toujours obligé de passer par cette phase d'exploration, quoi qu'il arrive. C'est pas parce que la loi autorise que malheureusement tout le monde pourra y avoir accès. C'est une première limite de la prise en charge.
Petit point vocabulaire, les soignants, vous dites l'AMP, hein, pour les gens qui... Oui. Vous dites plutôt assistance médicale à la procréation que PMA, qui est procréation médicale assistée. Je le dis pour les auditeurs qui entendent PMA ou AMP, c'est pareil.
Je peux dire PMA si vous voulez, il n'y a pas de souci.
Frédéric Worms.
Oui, ce qu'il faut voir, ce qui est important, c'est qu'il y a des nouvelles techniques qui permettent des choses, hein, qui permettent de répondre à des pathologies, de répondre à des demandes, à des attentes, à des choses très profondes, hein, des personnes, des citoyens. Et elles ont des effets évidemment sur les représentations. Par exemple, c'est vrai que ça fait intervenir d'abord des nouveaux acteurs. Je crois que c'est très important. On l'a dit, Caroline Mécari le rappelait, et Marine Poulain aussi, il y a maintenant des donneurs qui ne sont pas effectivement des parents, puisque le terme de père ou de mère va être réservé à l'aspect juridique et pas à l'aspect biologique de cet ensemble qui, pour nous, fait encore une unité, mais qui ne l'est plus finalement, puisqu'il y a le côté biologique et le côté juridique. On parlait dans le comité d'éthique de disjonction, même plus que de dissociation, d'aspects qui pour nous sont fondamentaux dans ces relations. Donc je crois que on voit bien il y a des apports et puis il faut prendre au sérieux les nouveaux acteurs. On voit bien que le statut des donneurs a un peu changé maintenant avec l'accès à la possibilité de la levée de l'anonymat à la majorité de l'enfant. C'est un des sujets qui a mûri très lentement aussi au cours des années avec des débats très intenses. Et donc je crois que c'est pour ça que ce que je disais, au fond il y a des conceptions globales de la parenté, de la famille, mais regardons plutôt relation par relation, sujet par sujet, sujet humain par sujet humain aussi, et dans quelle mesure une technique peut poser problème aux uns et aux autres. Et si on regarde bien, je crois vraiment que l'extension de cette procréation médicale assistée aux femmes et qui vont porter l'enfant dont elles seront ensuite des parents juridiques, enfin voilà, on voit bien qu'il n'y avait pas d'ailleurs d'autres différences majeures avec la procréation pour les couples hétérosexuels.
On a un message de Patrick par mail qui nous écrit: n'étant pas un mode de reproduction naturel, la PMA pose de nombreuses questions éthiques, vous en parlez Frédéric Worms, y compris pour les couples hétérosexuels. Les découvertes scientifiques, nous dit Patrick, ne sont pas forcément un progrès. À jouer aux apprentis sorciers, on crée des problèmes moraux, philosophiques et religieux qui ne devraient pas avoir lieu d'être et qui génèrent des débats sans fin. Alors là, je voudrais, Jenna, femme, celle que vous puissiez réagir à ce message de Patrick.
Je suis d'accord avec une partie de ce message, qui est ces débats n'ont pas lieu d'être. Sur la place de la religion dans l'accès à la PMA, par exemple, si on accepte qu'on est une république laïque et que la religion c'est personnel, eh bien, ces débats n'ont pas lieu d'être. Je voudrais revenir sur le concept de disjonction des pères géniteurs et des termes géniteurs et pères, parce que j'aime beaucoup le terme de disjonction et pas juste faire une distinction. C'est un travail social qui aurait dû avoir lieu avec la naissance d'Amandine.
Donc
on n'aurait pas dû attendre 2019 pour le faire.
Il y a presque 40 ans.
Oui. On a volontairement, dans la société en général, fait en sorte que le terme de père et de géniteur, ou plus exactement que le terme de géniteur n'existe pas, afin de sauvegarder l'apparence du père qui devait, dont on ne devait pas connaître la stérilité, l'éventuelle stérilité, parce que c'est même pas forcément la cause de l'accès à la PMA.
Caroline Micari, oui.
Oui, c'est parce qu'en fait, en 1994, le législateur a fait le choix de permettre aux couples hétérosexuels qui avaient recours à un tiers donneur, donc en effet à un donneur, c'est-à-dire ce fameux géniteur, de pouvoir continuer à faire comme s'ils étaient néanmoins ceux qui avaient totalement procréé l'enfant. Et donc, il y a eu un espèce comme ça d'escamotage du géniteur, ni vu ni connu, de sorte que...
On fait croire que c'est le père qui est à la maison.
Absolument, qui... ouais. Exactement. De sorte que cette disjonction qui aujourd'hui est une évidence pour les couples de lesbiennes, puisque par définition, il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de père dans ces couples, c'est la revendication des couples de lesbiennes qui a permis de poser la question de la place du donneur-géniteur, qui n'est effectivement pas légalement un père. Ça, c'est très, très clair. Mais je précise quand même que dans la loi actuelle, et y compris dans celle qui va devenir définitive après la décision du Conseil constitutionnel, c'est que le donneur, de toute manière, n'est jamais un père. Il ne peut jamais être poursuivi pour être qualifié de père, et sa responsabilité ne peut jamais être engagée. Ça, c'est très, très clair. C'est un donneur. La grande différence avec la nouvelle loi, c'est qu'en effet, comme l'a rappelé Frédéric Worms, il y aura la possibilité pour l'enfant qui a été conçu grâce à ce don avec un tiers donneur d'avoir accès à des éléments de la biographie du donneur et à des éléments identifiés de ce donneur, sans que pour autant cet enfant ne puisse revendiquer une quelconque filiation à l'égard de cet homme.
Et ça, on va parler des conséquences que ça peut quand même avoir sur les donneurs dans un instant, Marine Poulain, mais avant, sur les questions éthiques, vous qui êtes tous les jours ou en consultation, vous voyez des gens, est-ce que c'est des questions qui viennent toujours au-delà des processus médicaux ?
Alors, c'est des questions qu'on peut effectivement avoir hein, sur les conséquences, notamment sur l'enfant à venir, des techniques d'assistance médicale à procréation. Donc pour répondre à votre auditeur, je pense qu'il faut toujours rester humble. On n'a effectivement que 40 ans peut-être de recul, mais à la fois on a déjà 40 ans de recul. C'est des pratiques qui sont très encadrées. On doit être autorisé par l'Agence de la biomédecine. On a un suivi exhaustif de toutes nos tentatives, de tous les enfants nés issus de ces techniques. Donc je pense que pour l'instant, les données, même mondiales, sont quand même très rassurantes et on peut pas dire qu'on est des apprentis sorciers,
voilà,
je
comme
pense,
le dit Patrick sur son message.
Du quotidien, mais voilà, c'est des techniques qui restent, bien sûr, en évaluation continue.
Frédéric Worms.
Oui, juste pour compléter sur la réponse à votre auditeur, hein, je crois vraiment qu'il faut insister sur le fait que c'est pas parce qu'il y a des changements techniques et des ajustements des choses qui sont permises qu'il n'y a plus d'éthique. C'est pas le passage de la nature supposée intégralement éthique, où il y avait quand même beaucoup de violence entre les vivants dans tous les cas, de toute façon, hein. Et il y avait besoin de règles éthiques avant les lois de bioéthique et les techniques biomédicales. C'est pas parce que on est passé à d'autres choses qu'il y a plus de repères éthiques. Au contraire, ces repères se construisent de plus en plus fortement, même, je dirais. Ils obligent à expliciter des choses. Je prends un exemple, par exemple, la gratuité du don, qui est fondamentale, un certain nombre de limites que la loi pose à ces mesures. Et donc, je crois qu'il faut absolument rassurer les gens. On ne passe pas d'une nature éthique a priori à une absence d'éthique. Au contraire, on fait progresser l'éthique admise, explicite, entre les humains sur des sujets précis.
Allez, on parle PMA pour toutes aujourd'hui dans le débat de midi. Émission réalisée par Valérie Ayestarai, préparée par Colin Gruel et Sophie Perroguet. Et c'est Guillaume Roux qui est à la technique. Et Gaëlle Faye dans les oreilles, histoire d'amour.
Histoire d'amour. Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicament sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. terrain miné sera notre histoire. Oh, terminé de douter pour une fois. Kito kona yo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde moteme pona ho, yonde na linga. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée. Je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Nakoko vanda kinyate, mokili ebongi yeba, bolingo yanga na yo sukaseliwa. Histoire d'amour, histoire d'amour. Ave Maria, femme au jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, femme au jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti.
Et on parle PMA pour toutes aujourd'hui avec le docteur Marine Poulain, Frédéric Worms du Comité Consultatif National d'Éthique, la militante transgenre Jenna Pfamsel et l'avocate spécialiste du sujet Caroline Mécari. D'ailleurs, vous parliez il y a quelques minutes, Caroline Mécari, du Conseil constitutionnel et on a Delphine qui nous écrit. Depuis le 2 juillet 2021, donc depuis quelques jours, le texte, donc cette mesure sur la PMA pour toutes, est au Conseil constitutionnel. Pour quelles raisons et quand la décision sera-t-elle rendue ?
Bon, les raisons, c'est parce qu'il y a au moins 60 parlementaires qui ont considéré que les dispositions de ce texte adopté par l'Assemblée nationale le 29 juin ne respecteraient pas la Constitution et éventuellement la Déclaration des droits de l'homme. Donc ça, c'est un processus assez classique en réalité aujourd'hui de déferment des textes législatifs devant le Conseil constitutionnel. Le délai dans lequel la décision va être rendue va être de quelques semaines en réalité. On n'a pas la date exacte, mais on sait qu'habituellement, c'est un délai de 3, 4, 5 semaines, je pense, à peu près. Voilà.
On parlait de la levée aussi de l'anonymat, qui est une des grandes lignes de cette PMA pour toutes. Donc, la possibilité, on le rappelle, pour l'enfant, quand il aura 18 ans, d'avoir des informations sur le donneur ou la donneuse. Marine Poulain, est-ce qu'aujourd'hui, on a des chiffres sur le nombre d'enfants qui naissent chaque année de dons, que ce soit ovocytes ou spermatozoïdes?
Oui, tout à fait. Donc, le bilan de l'Agence de la biomédecine annuelle nous indique qu'on a à peu près 1300 enfants qui naissent chaque année issus donc d'un don de gamètes, de spermatozoïdes ou d'ovocytes. Donc, c'est à peu près 5% des enfants qui sont nés issus d'une technique d'AMP.
Les derniers chiffres pour les enfants nés d'une technique de procréation médicale assistée, c'est à peu près 3,4% des naissances en 2018. Ça fait une naissance sur 30, un peu plus de 25 000 enfants au total. Jenna Pfamsel, en quoi la levée de l'anonymat peut poser problème à votre avis ?
On dirait que certaines personnes ont du mal à l'idée qu'on puisse les retrouver à l'issue du don après la majorité de l'enfant. Et je pense que c'est plutôt un bien que l'enfant, devenu adulte, ait une chance d'une part d'accéder à des informations médicales qui peuvent lui être cruciales, parce qu'il y a évidemment des choses qui peuvent passer génétiquement, et d'autre part dans une idée de recherche de ses origines, pas nécessairement pour créer un lien de substitution avec la personne qui est son père et qui restera son père, mais simplement pour avoir un tableau familial plus complet.
Mais donc ça pourrait freiner certains donneurs et donneuses potentiels ?
J'y crois pas trop. Je pense que c'est quelque chose qui a été utilisé comme un épouvantail pour ne pas faire voter cette disposition. Je pense qu'une fois que les dispositions sont comprises et qu'effectivement on ne va pas poursuivre des gens pour qu'ils deviennent pères et qu'ils prennent soin d'un enfant après ce don, quand les gens auront compris ça, je pense que plus de gens donneront.
Caroline Mécari, il y a une pénurie aujourd'hui de dons.
Alors, en fait, on n'a pas, il nous manque un petit peu des donneurs. C'est-à-dire que le nombre de donneurs aujourd'hui est d'environ 400. C'est finalement
400 hommes et femmes, pardon.
Oui, d'accord. Absolument. Donc c'est assez peu. Il doit y avoir 60 femmes à peu près qui font des dons.
On va juste demander à Marine Poulain de compléter.
Alors, 400, c'est uniquement les hommes.
D'accord. Ok. Bon, mais les femmes, c'est très peu. C'est 80.
Mais c'est enfin, ça fait moins de 500 personnes en France.
Oui,
c'est rien du tout.
C'est rien du tout. C'est la raison pour laquelle moi, je pense. D'abord que, à partir du moment où la PMA est ouverte à un nouveau, entre guillemets, public, on va avoir aussi un nouveau public de donneurs. Et je pense aussi que l'agence de biomédecine, aujourd'hui, ne fait pas des campagnes suffisamment pertinentes pour inciter au don, tout simplement. Voilà. Ça, là, il y a un travail à faire qui me paraît absolument évident. Étant précisé que désormais, dans la loi nouvelle, le donneur est informé au moment où il va faire son don, de la possibilité pour la personne qui sera issue de son don que cette personne ait accès à des informations sur lui ou sur elle. Donc, et s'il n'est pas d'accord avec cela, il ne donnera pas, tout simplement. Donc ça règle, ça clôt le débat sur les gens ne vont pas donner ou vont donner. Ils donneront en connaissance de cause.
Mais aujourd'hui, s'il y a des doutes par rapport à cette levée de l'anonymat en particulier, c'est qu'il y a déjà des délais assez grands, Marine Poulain, pour avoir accès à un don.
Il y a à peu près un an d'attente. Après, c'est peut-être variable selon les sécos.
Donc est-ce que ça veut dire, pardon, que plus de patients, puisque normalement ça va faire un appel d'air de femmes célibataires et de couples de femmes, ça va venir rallonger les délais d'attente et donc ça va poser aussi, Frédéric Vamps, un problème de délai.
Pour le problème de délai, je pense que seul le temps pourra dire. On peut vraiment, en tout cas, pas en faire un obstacle. Ça a été évoqué par certains comme un obstacle éthique. C'est pas un obstacle éthique. Ça va être au contraire. Je pense que ça va dépendre au contraire de la clarté du débat éthique sur le don. Et je crois qu'il faut bien comprendre que ça n'est pas tout ou rien. Le don est une relation, mais une relation assez précise, évidemment. Et dans ce cas-là, on a voulu, évidemment, je comprends bien qu'on veuille distinguer le biologique et le juridique. Hein. Comme on l'a dit, il faut le distinguer. Le donneur est un géniteur et le père ou la mère, d'ailleurs, sont des figures reconnues par la loi, par la filiation, de manière juridique. Et on voit bien comment le nom, dans la question de l'anonymat, semble évidemment totalement du côté du juridique. Le nom, c'est en général ce qu'on donne à ses enfants, justement, de manière non biologique. Et donc, il y avait cette sorte de barrière comme ça renforcée. Je crois qu'il faut bien comprendre que les critères sont encore là pour bien distinguer le donneur et les parents, et que même la levée de l'anonymat reste du côté d'une clarification. Moi, je dirais même pas des origines, mais en tout cas, oui, on pourrait dire origine. Voilà, d'une sorte de factualité, tout simplement, de l'histoire effective, de l'histoire empirique, des relations entre les personnes, et non pas dans le déni des relations qui ont eu lieu. Et on sait bien que les psychologues, les psychanalystes, depuis très longtemps, s'opposent, et ça, c'était acté avant la loi, au secret, déjà. Il faut lever le secret sur le mode de gestation et d'engendrement. Mais la levée de l'anonymat n'est pas, comme ça a été très bien dit, n'implique aucun changement sur la filiation.
Un message de Sandra qui se pose cette question. Elle nous écrit « Il a été sujet à un moment qu'il soit inscrit dans l'acte de naissance des enfants nés de PMA dans les couples de femmes, les modalités de sa conception, PMA avec donneur inconnu, etc. Est-ce toujours envisagé, Caroline Mécari ?»
Alors, c'est pas du tout dit comme ça, et là-dessus, il y a eu une désinformation absolument terrible. Quel est le mode d'établissement de la filiation qui est mis en place par la loi nouvelle ? pour tous les couples qui auront besoin d'un don, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ils devront aller chez un notaire et établir ce que l'on appelle un consentement au don. Ça, c'est pour l'acte médical. Et pour les couples de femmes, de manière à sécuriser le lien de filiation pour l'enfant qui va naître, les deux femmes feront une reconnaissance conjointe.
Anticipée
devant... Elle est anticipée, elle est faite devant le notaire, elle est faite au même moment que,
bon
le
mot,
consentement, que le consentement au don. Donc en fait, pour les couples de femmes, il y a deux consentements. Et au moment, donc, l'une des donc ensuite les femmes vont aller faire le parcours de PMA, l'une va tomber enceinte, elle va accoucher. Et au moment de l'accouchement, l'enfant naît, il faut faire la déclaration de naissance. Donc il faut aller à la mairie, au service de l'état civil, pour déclarer l'enfant, et donc sera remis à l'officier d'état civil le certificat d'accouchement de la femme qui a accouché et la reconnaissance conjointe anticipée. Ces deux documents vont permettre à l'officier d'état civil de rédiger l'acte de naissance de l'enfant avec la mention de ses deux mères. Et dans la copie intégrale de cet acte de naissance, il y a plusieurs types d'actes de naissance, mais en tout cas, celui qu'on appelle la copie intégrale, sur lequel il y a ce qu'on appelle des mentions marginales, si vous changez de prénom, de nom, de sexe, si vous êtes marié, divorcé, pacsé, etc. Il y aura indiqué comme événement relatif à la filiation, reconnaissance conjointe établie par maître Trucmuche en date du temps. Voilà, c'est exactement ce qui sera indiqué. Ce qui permet aux enfants conçus par PMA, avec tiers donneur pour les couples de femmes, d'avoir un accès total à leur histoire. Là où il y a des enfants qui sont discriminés, c'est les enfants de couples hétérosexuels qui, eux, n'ont pas cette mention sur leur acte de naissance. Et donc, pour avoir accès à leur histoire, dépendent de ce que leurs parents vont raconter ou pas raconter.
Ah, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas, eux, à 18 ans d'avoir accès...
Si.
À
condition que leurs parents leur aient indiqué qu'ils ont été conçus par don. L'enfant en lui-même ne peut pas le savoir si ses parents ne lui ont pas indiqué. Alors que pour enfants de lesbiennes, il lui suffira de lire son acte de naissance et de savoir qu'en effet, il y a eu une RCA, ce qui signifie effectivement qu'il y a eu un don.
Ça, Marine Poulain, les couples hétérosexuels que vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'ils ont la volonté, quand il s'agit d'enfants issus de donneurs, hein, évidemment, est-ce qu'ils ont la volonté de raconter l'histoire à leur enfant, ou c'est des choses dont vous ne parlez pas du tout dans vos consultations?
Alors, nous, en consultation, ce n'est pas nous qui abordons, c'est le SECOS en consultation qui le centre de conservation des gamètes, des spermatozoïdes et des ovocytes. Donc le couple qui a recours à un don de sperme ou un don d'ovocyte doit consulter forcément dans un de ces centres-là. Et il y a toute une consultation, tout un parcours de consultation qui est encadré et où effectivement on aborde ce sujet.
Mais est-ce
avec
qu'il y a une
couples,
incitation
et
en fait
on incite ou... fortement les patients effectivement à dire à l'enfant dès la naissance qu'il est issu d'un tiers d'honneur.
Alors on a un message sur Twitter qui nous écrit: la PMA n'est, il n'y a pas de signature, la PMA n'est pas ouverte aux personnes trans et reste le parcours du combattant aussi pour les femmes noires. Quand est-ce que des modifications seront apportées à ce texte de loi pour rendre le parcours accessible à tous et toutes? Jenna Famsel, est-ce qu'aujourd'hui en tant que femmes trans, il y a des problèmes par rapport à ça, qui sont pas pris en compte? Vous avez l'impression d'être comme ça dans une zone grise?
On est exactement dans une zone grise de par la volonté explicite du gouvernement qui a considéré que les personnes trans n'étaient pas assez nombreuses pour qu'on légifère en leur faveur.
Vous, par exemple, vous êtes donneuse de sperme, on peut le dire comme ça?
Oui. Alors, bon, ça, c'est anecdotique. Mais en ce qui concerne la loi de bioéthique, la réponse de la garde des Sceaux au moment des discussions à propos de la loi, c'était: nous laissons la question des personnes trans à la jurisprudence. Vous vous débrouillez et vous ferez un procès si vous voulez une filiation, si vous voulez un accès à vos propres gamètes.
Pourquoi?
Alors, l'interprétation que j'en ai, puisque la voix des ministres est à peu près unanime, c'est que, vraiment avec des guillemets, parce que c'est une citation, une personne trans qui fait des enfants, c'est compliqué quand même.
Frédéric Worms, peut-être pour réagir à ça, vous qui êtes du comité consultatif national d'éthique.
Oui, c'est très important et très intéressant. Moi, la remarque sur la jurisprudence, Caroline Mécari la commentera peut-être. Moi, en tout cas, elle m'inspire, elle me confirme dans l'idée qu'il y a en effet, il y a trois groupes de sujets. Il y a ceux qui ont été adoptés, c'est le cas de le dire, travaillés, dont certains sont passés. Il y en a qui sont clairement encore sous l'objet d'une interdiction explicite, en tout cas en France, hein, comme la gestation pour autrui, la GPA. Et puis en effet, il y a des sujets intermédiaires dont on a l'impression, et ça rejoint ce que je disais au début, qu'ils touchent à d'autres enjeux éthiques de conception de l'humain en général et que ces conceptions globales de l'humain viennent bloquer leur traitement juridique précis. Et il y en a trois essentiellement en ce moment. Il y a l'extension de la PMA post-mortem, qui pose un problème effectivement majeur de représentation de la mort.
Ça n'est pas dans la loi aujourd'hui.
Il y a en effet l'explicitation des personnes transgenres, et ce qui vient d'être dit montre bien qu'on assume l'idée que c'est plus une question de représentation, de représentation en général plutôt que de problèmes éthiques.
Donc sinon, de discrimination, serait... on va le dire.
Je dirais pas forcément de discrimination, mais de blocage. Je dirais presque, si j'étais un peu clair, je dirais idéologique, mais pas forcément au sens critique, mais au sens où une conception. C'est dans le niveau de l'éthique et les conceptions de l'humain qui s'affrontent dans une société. Et ça bloque des sujets très précis qui ne devraient peut-être pas l'être. Et le dernier, pardon, c'est ce qu'on appelle la ROPA, c'est-à-dire la manière dont un couple de femmes pourrait partager finalement la parentalité.
Alors la ROPA, c'est la réception des ovocytes de la partenaire. Donc c'est une maternité partagée par les couples de femmes.
Et contrairement à la GPA, effectivement, la mère qui porterait l'enfant ce serait pas son ovocyte, mais elle serait mère juridiquement, de la filiation juridique post-gestation. Donc si vous voulez, ce qui me frappe, et là je suis frappé par le recours explicite à la jurisprudence, ce recours montre bien qu'on n'est ni dans une approbation, ni dans un interdit. Mais pourquoi ? Parce qu'on touche à des sujets dont la maturation sociale d'ensemble est encore en cours, la question des personnes transgenres.
Il y a des vraies personnes
qui viennent interférer avec ce sujet très précis, et personnellement je trouve cette interférence regrettable, même si les deux aspects sont très importants.
Juste pour revenir sur un aspect aussi du message de Twitter que je vous ai lu, donc par rapport aux personnes trans, il y a aussi le combat, donc, nous dit la personne, pour les femmes noires. Marine Poulain, quand un médecin choisit un ovocyte ou un spermatozoïde, il choisit quoi ? En fonction de la couleur de peau, en fonction du physique des personnes qui attendent le don ? Et donc, par exemple, si quelqu'un veut un don, une femme célibataire dit, moi je voudrais un petit métis, et donc je voudrais un don d'un homme noir. Ça, vous le faites pas ?
Alors ça, je pense qu'il faut déjà attendre que les décrets d'application sortent et que les SECOS aient le temps de s'organiser. À l'heure actuelle, il n'y a pas du tout de discrimination par rapport à l'ethnie. Simplement, il y a un appariement des donneurs et des receveurs en fonction de la couleur des yeux, de la couleur de la peau, du groupe sanguin, mais voilà, pour des questions qui peuvent s'entendre.
Il faut souligner, c'est tout. C'est-à-dire c'est seulement tout. Ces trois critères qui sont légitimes. On ne demande pas juste d'autres critères. La loi n'autorise pas d'autres critères d'appariement. Un mot d'ailleurs très, très compliqué.
Simplement, on a très très peu de donneurs et de donneuses dans certaines ethnies, et donc du coup, c'est pas du tout une discrimination de la part des médicaux de par rapport à ces patientes, c'est que malheureusement, on n'a pas de donneurs ou de donneuses.
Sur la levée d'anonymat, pardon, je vous lis un message de Cyril qui vient de nous écrire. J'ai annulé mon projet de don de gamètes suite à la levée de l'anonymat. Pour moi, c'est comme la gratuité. Les arguments de santé sont faux parce qu'avant un don, une enquête génétique est faite et donc les donneurs sont refusés si un risque de transmission est possible. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Caroline Mécari ou Jenna Famsel ?
Est-ce qu'on peut finir sur la question des femmes noires ? Parce que je pense qu'on n'a pas mentionné finalement le point important. On a parlé de l'appariement comme une évidence. Ouais, et le problème, c'est que l'appariement est obligatoire. Et qu'une famille, une famille de deux personnes noires qui demande à bénéficier d'un don pour une PMA ne sera à des années d'attente parce qu'on leur impose cet appariement, même s'ils sont prêts à recevoir une gamète qui aurait d'autres caractéristiques physiques.
C'est donc, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas avoir d'enfants à terme puisqu'il y a trop d'attentes, puisqu'il n'y a pas de donneur noir en l'occurrence. Frédéric Worms.
Non, c'était juste sur. Effectivement, on est toujours sur ce partage très très compliqué psychologiquement, mais que la loi devrait aider à penser entre le biologique et le juridique. Comment dire d'un enfant qui n'a pas la même couleur de peau, c'est mon enfant. Je l'ai pas adopté. Hein, ce n'est pas une adoption, c'est une gestation médicalement assistée. Voilà, on touche de nouveau à des frontières qu'il faut que la culture nous aide à travailler sans trouver honteux ni que des parents d'une couleur des parents, quelle que soit leur couleur de peau, aient un enfant d'une autre couleur de peau.
Et Caroline Mécari, pour venir quand même sur le message que nous envoie Cyril à l'instant, qui lui dit, voilà, moi j'ai annulé, parce qu'en gros, il a peur de la levée de l'anonymat.
J'ai deux choses à répondre, ouais. En fait. D'abord, c'est lui, voilà, c'est un cas parmi d'autres.
Oui, mais un parmi 400, c'est déjà peu.
Oui, mais ça, non, mais on pourrait avoir aussi l'appel d'un auditeur qui dit, ben moi, je vais donner parce que du coup, je sais que mon don va pouvoir aller à des couples de femmes lesbiennes ou à des femmes célibataires. Et deuxièmement, je lui dis aussi que il reste dans quelque chose de fantasmatique, c'est-à-dire que la loi rappelle bien qu'un donneur est quelqu'un vis-à-vis duquel il est impossible d'établir une filiation quelconque. Donc, c'est clair, il ne sera jamais le père de l'enfant conçu par son don, et que par ailleurs, l'enfant conçu par son don ne pourra pas davantage rechercher sa responsabilité pour ne pas l'avoir élevé. Voilà, donc il faut en finir avec les fantasmes et regarder ce que dit le texte. Le texte est très clair. Peut-être qu'un jour, en effet, quelqu'un viendra avoir juste une interrogation sur qui il est. Maintenant, je voudrais dire quelque chose sur l'accès aux origines, l'accès à l'histoire. Mmh. C'est une démarche qu'on trouve très très peu chez les enfants nés, pardon, dans les couples de lesbiennes. Parce que, évidemment, les enfants qui sont dans des couples de lesbiennes, on leur raconte pas d'histoire, hein, on leur dit pas que c'est nous qui avons fait l'enfant, très clairement. En revanche, cette problématique de l'accès aux origines, à l'histoire, c'est quelque chose qui est né, qui existe pour des enfants de couples hétérosexuels où on n'a pas dit à l'enfant qu'il avait été conçu par don.
Mary tried to talk the pleasure back into being alive. About the apricots and blunts on Peckham Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. Spot of blue ink, looking for light and finding a hole where there shouldn't be one.
I cannot communicate the depth of the feeling. Truth is, I'm still learning to be open about this. But know that I know, and you're not alone. You know that I know, and you're not alone.
Hope, c'était Arlo Parks sur France Inter et Valentine Chédébois pour la programmation musicale.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Et mes invités peuvent en témoigner, je croule sous les messages d'auditeurs. On n'arrête pas de m'en apporter, c'est difficile de tous les lire même en vous parlant en même temps. Je vais vous faire une petite salve de questions et on essaiera de répondre dans l'ordre. On a d'abord un message qui nous demande « J'ai entendu le gouvernement assurer que les premières PMA auraient lieu avant la fin de l'année 2021. Est-ce probable? Où en sont les décrets d'application ?» Première question, gardez-la dans la tête. On a également un message qui nous écrit, anonyme je dis un message parce que c'est pas signé. « Pourquoi rembourse-t-on une PMA après 40 ans avec les faibles chances de succès? On ne parle jamais des nombreux échecs. Il vaudrait mieux encourager le don d'ovocytes en indemnisant les donneuses. » Et justement, au sujet du don d'ovocytes, Pauline qui nous écrit « Bonjour, comment faire pour pouvoir donner ces ovocytes? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Alors, Marine Poulain, vous êtes médecin, vous êtes spécialiste de la reproduction. Est-ce que vous pouvez expliquer à Pauline et à d'autres qui seraient peut-être intéressés comment ça se passe?
Bien sûr. Alors, il faut tout simplement prendre rendez-vous avec un des 31 sécos français. Donc il y en a forcément un près de chez elle. Mes collègues des Sécos se mettront tout en œuvre pour lui faciliter son parcours pour pouvoir avoir une stimulation de ses ovaires, puis une ponction des ovules. On va les retirer les ovules de ses ovaires pour les donner à une receveuse.
Et pour les hommes, en tant qu'affaire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs
non
plus.
Pareil, alors c'est encore plus simple, puisqu'il n'y a pas toute la médicalisation nécessaire pour le don d'ovocytes. C'est un simple recueil de sperme au centre Sécos. Donc on invite vraiment tous nos auditeurs qui seraient susceptibles de donner leurs ovocytes ou leurs spermatozoïdes.
Je vais rajouter à toutes mes sœurs, femmes, trans, qui ne sont pas encore en traitement hormonal ou qui ne souhaitent pas prendre de traitement hormonal, venez faire des dons. La plupart des sécos maintenant sont au moins prévenus, parfois entraînés, parfois ont de l'expérience, accueillent les dons de femmes trans. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a très peu de dons globalement. Et ces dons-là vont pouvoir aider des couples de femmes à faire des enfants. Et je pense que ça fera plaisir à tout le monde, notamment aux couples de femmes, de dire qu'il n'y a même pas eu un homme impliqué dans la conception.
Alors, Carlos nous écrit aussi, la procédure, lui, dit de don est extrêmement fastidieuse. Ça m'a pris 4 demi-journées de congé, des rendez-vous sinistres. Les Sécos, c'est l'administration et la médecine, c'est ce qu'ils peuvent faire de plus lent et de plus pénible. S'il vous plaît, améliorez cette procédure et je vous assure que le nombre de donneurs augmentera. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Marine Poulain?
Je pense que mes collègues du Sécos font un énorme travail au quotidien. On peut toujours améliorer effectivement les choses. Mais je pense qu'il faut vraiment souligner les efforts considérables qui sont faits. Et on est obligé, effectivement, il y a un minimum de rendez-vous. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Mais voilà.
Caroline Mécari, sur la question au sujet du remboursement pour les femmes de plus de 40 ans et l'indemnisation éventuelle des donneurs et des donneuses, qu'est-ce que vous avez à répondre?
Alors, sur l'indemnisation éventuelle des donneurs et des donneuses, on a un principe de gratuité en France qui est qui est établi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, si je remonte historiquement. Pour le moment, il n'est pas question de le remettre en cause. Alors, je sais bien que, par exemple, en Espagne, on a une indemnité lorsqu'on fait un don d'ovocytes. Mais notre choix politique est celui-là. On peut l'interroger, peut-être qu'il sera réinterrogé plus tard. On a toujours peur de la commercialisation. Et donc, je comprends en réalité la réticence à l'indemnisation, mais en même temps, c'est discutable. Sur la question du remboursement, il y a un choix politique qui est fait, qui est en effet toutes les personnes qui sont acceptées pour avoir accès aux techniques de PMA.
Donc c'est jusqu'à 43 ans
pour les femmes. Pour les femmes, oui, absolument. Mais vous avez des femmes qui, même à 45 ans, arrivent à être des gestatrices formidables. Donc, il y a un principe d'égalité de traitement. Peut-être que ça n'exclut pas le fait qu'on incite à faire de l'autoconservation des dons, parce que ça, c'est une des nouveautés.
Ça, c'est dans la loi.
Dans la loi, c'est une des nouveautés.
Il y a besoin d'aller en Espagne pour faire congeler
ses
ovocytes.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, ça permet en effet de garder des ovocytes de bonne qualité.
Frédéric Worms.
Oui, je voulais réagir d'un mot parce que dans l'expression don d'ovocytes ou don de sperme, il y a deux choses. Il y a ovocytes et sperme, et puis il y a don. Et le don, c'est ce qui ancre aussi tout ce dont on est en train de parler, la PMA, dans des sujets de bioéthique en général. Et il faut rappeler d'ailleurs que cette loi est une loi de bioéthique dont la PMA n'est qu'un des sujets qui masque beaucoup d'autres sujets dont on n'aura évidemment pas le sujet d'aujourd'hui d'en parler. Mais par exemple, pourquoi la gratuité? C'est parce que la bioéthique française, depuis des années en effet, considère que le corps n'est pas un objet qui appartient à son détenteur, mais le corps est une partie de notre personne. Et que donc on ne peut pas se séparer d'une partie de cette personne par une relation marchande. Et donc seul le don et vaut pour toutes les parties de notre corps. Et c'est très important aujourd'hui, puisque, et je ne fais que glisser ce sujet, vous voyez bien qu'aujourd'hui, y compris autour de la Covid, on parle évidemment beaucoup des données de santé. Qu'est-ce que c'est que ces données de santé? Ce sont aussi des choses que nous donnons, ce sont aussi des parties de nous-mêmes, finalement, qui circulent. Et donc, il faut qu'il y ait un droit du don et des données de santé qui soient... Et là, je crois qu'il faut rassurer les gens. Justement, il y a quand même des principes éthiques, des repères stables. Bien sûr qu'on pourrait imaginer que l'incitation, la publicité est légitime, par exemple, mais la gratuité des parties du corps, ça fait partie des choses, justement, des piliers de la bioéthique, en tout cas en France. Et on peut effectivement réfléchir, mais malgré tout, respectons quand même un certain nombre de cadres clairs.
Pardon, je fais un tout petit crochet là, parce que je vous entends parler de ça. Quand on entend parler des gens qui font don de leur corps à la médecine et ensuite les parties sont revendues avec le scandale qui s'est passé à Descartes, on en a parlé.
Je crois qu'il y avait tous les scandales, mais pas la revente. Il y avait tous les scandales possibles.
Je pense que c'était payant.
Dans ce lieu, c'est.
Mais je pensais que les industriels.
Non, c'est totalement. Le don du corps, c'est une des modalités du don.
Une question à laquelle on n'a pas répondu qui est venue, donc Marine Poulain, je vous la repose. Est-ce que ce que dit le gouvernement, première PMA d'ici la fin 2021 pour un couple de femmes célibataires ou une femme célibataire, c'est jouable?
Déjà, il faut qu'on attende les décrets d'application de cette loi. Et il va falloir que tous les centres d'AMP s'organisent. Ça ne va pas être chose simple pour prendre le mieux possible en charge les personnes qui sont susceptibles d'être prises en charge par rapport à cette nouvelle loi. Et ça me paraît un petit peu compliqué d'imaginer qu'il y aura une première insémination avec sperme de donneur avant la fin de l'année.
Vous êtes d'accord, Caroline?
Totalement. Enfin, pour moi, c'est un effet d'annonce uniquement. Voilà, ça a pour objet de calmer les demandes et tout. Donc, ça veut dire que les lesbiennes et les femmes célibataires vont devoir continuer quand même à aller à l'étranger encore, parce que comme vous l'avez rappelé, docteur Poulain, on a des délais d'attente en France d'un an, donc on ne voit pas comment on va les réduire pour la fin de l'année. Ça ne me paraît pas raisonnable.
Jenna Femcel, oui.
C'était optimiste et ça ressemblait à vraiment à un appel électoraliste de dire on va avoir les premiers bébés qui vont naître pile avant les élections présidentielles. C'est un peu formidable quand même. Et c'est de la part d'un médecin qui doit connaître la durée d'une
Olivier
gestation.
Véran, le ministre de la Santé. D'autres questions, et ça va peut-être être d'ailleurs avec ça qu'on va terminer, ça va être un petit peu l'étape d'après. On a des messages de Louis, par exemple, ou d'Antoine qui nous écrivent. Je me questionne... la société prône l'égalité homme-femme. Pourtant, dans le cas de la PMA, il est donné aux femmes la possibilité de procréer. Et les couples d'hommes, moi-même en couple homosexuel, j'ai le sentiment d'être bloqué par l'absence de GPA, la gestation par autrui. Antoine nous écrit le même message. Quelles perspectives ont les couples d'hommes? Est-ce que c'est ça la prochaine étape, Frédéric Worms, la GPA?
Alors, dans cette notion de prochaine étape, il y a beaucoup de malentendus. Il faut les lever. Là, on parlait du temps. Effectivement, vous aviez commencé par là, donc ça boucle un peu l'émission.
Pourquoi... Je parle de prochaine étape, parce que la loi sera révisée dans 5 ans.
Exactement.
C'est ça.
Donc, pourquoi est-ce qu'on... Il y avait la question du temps. Vous avez dit on a attendu trop longtemps, très longtemps en tout cas, pour la PMA pour toutes. Ensuite, il y a d'autres sujet. Moi, je crois qu'il faut surtout enlever aux gens l'impression qu'il y a une sorte de logique temporelle. Il faut enlever l'impression soit d'un statu quo immuable, soit d'une logique temporelle inéluctable, de sujet à sujet. Pour moi, chaque sujet est différent.
Mais la GPA...
Et je m'associe complètement, moi, à l'avis du comité d'éthique, qui, justement, distinguant sujet par sujet, a considéré que sur la GPA, il y avait un obstacle éthique important.
Deux choses.
Et on l'explicitera une autre fois.
Caroline,
la GPA, c'est un don de gestation. Ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler. Mais l'autre chose qu'il faut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, elle est interdite aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples homosexuels. Donc, ce n'est pas une problématique d'égalité ou d'inégalité entre les couples d'hommes et les couples de femmes. C'est une question beaucoup plus large de savoir si
d'analyse
notre société...
D'analyse de la nature même du geste, en fait.
Voilà, absolument. sachant que je pense que les problèmes d'infertilité Exactement. Auxquels les femmes et les hommes vont être confrontés, et surtout les femmes, dans les 10 prochaines années, vont faire que la demande de légalisation de la GPA va venir sur la table. Ça, c'est, j'en ai la conviction absolue.
Jenna Famsel.
Je pense qu'avant de parler de GPA, on peut déjà essayer de résoudre les problèmes de discrimination dans cette loi sur la PMA. Et là, c'est un bon... C'est un... personne qui est dans un couple d'hommes. Il y a une quantité de couples d'hommes qui sont composés d'un homme trans et d'un homme cis qui pourraient techniquement...
Homme cis.
Alors un homme cis, c'est un homme qui est... Non, puisqu'il est dans un couple d'hommes, il est gay. Un homme cis, c'est un homme qui est né... qui a été déclaré garçon à la naissance et qui est toujours un homme à l'âge adulte. Un homme trans, c'est quelqu'un qui a été déclaré fille à la naissance et qui est maintenant un homme. Donc il y a des couples gays qui sont composés d'un homme cis et d'un homme trans, qui pourraient techniquement avoir accès à la PMA, et dont le gouvernement a dit qu'il n'était pas question que ces personnes-là aient accès à la PMA en France. Et ça, c'est l'inscription d'une discrimination.
Donc pour vous, c'est faire les choses dans l'ordre, déjà régler les insuffisances de la loi actuelle pour ensuite ouvrir éventuellement... Une autre page, dernier message de Clément qui va vous intéresser, Marine Poulain. J'ignorais qu'il y avait si peu de donneurs, il nous dit ça sur l'application France Inter. Ça me motive à le faire, est-ce que vous pouvez juste me rappeler, j'habite en campagne, où et comment s'effectuent ces dons? Alors un petit conseil, Marine, rapide, Marine Poulain.
Oui, CECOS, donc C-E-C-O-S. Donc en général, c'est dans les centres hospitaliers qui ont un centre d'assistance médicale à la procréation. Et qui sont autorisés aussi pour le don. Et donc j'invite
à taper CECOS dans Google.
Et hop, on s'inscrit. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.
Merci à vous.
Je vous souhaite
Merci.
Une bonne après-midi. Merci. Et on se retrouve demain pour parler de rien à voir avec la PMA. On parlera des voitures en ville.